Voilà, restons debout, ouvrons le Saint-Livre. Romains chapitre 8, verset 16. Je vous encourage à noter bien sûr les versets que nous lisons, pour la simple et unique raison qu'ils vont vous aider à concrétiser ce que nous allons partager dans le cadre de cette exhortation. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Dans le livre aux Galates, juste un petit peu après, Galates chapitre 4, verset 1er, jusqu'au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, écoutez bien ce verset, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Amen. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, vous avez les trois fameuses paraboles que Jésus a donné pour éclairer ces pharisiens qui étaient dans un très 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 mauvais état d'esprit. Alors on va lire la dernière de ces trois paraboles dans Luc au chapitre 15, au verset 11. Nous la lisons en entier pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la lecture. Je sais que certains l'ont lu maintes fois, mais on va la lire. N'oubliez pas, c'est Jésus qui parle pour nous enseigner comment on devient des héritiers. Luc chapitre 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune, alors je le rappelle, il faut bien comprendre le contexte. Le contexte, c'est chapitre 15, verset 1 et 2. Regardez bien. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les scribes et les pharisiens murmuraient. Je reviens à mon verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune et fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, c'est-à-dire les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. » Et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. J'ai donné comme titre à ma prédication, « Esclave ou fils ?» Jeudi soir, à la réunion des responsables, j'ai vraiment eu à cœur de partager ce texte, où lorsqu'Élisée s'est retrouvée à l'école biblique, pour partager, pour enseigner, le moment est arrivé du repas et un des pasteurs a, bien sûr, a fallu qu'il aille faire à manger. Alors, comme il y avait une famine dans le pays, qu'il n'y avait plus rien dans les jardins, eh bien, il est parti dans la nature et il a ramassé des courgettes. Et il est revenu et il a commencé à faire sa soupe. Et au moment de manger, Élisée va donner un avertissement terrible. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Le cuisinier lui-même était en train d'empoisonner et allait s'empoisonner, il avait confondu les courgettes avec des coloquintes sauvages. Si vous allez sur Internet, vous verrez que beaucoup de coloquintes ressemblent étrangement à des courgettes. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous ne nous rendons pas compte dans quel temps nous sommes dans une réelle famine spirituelle, réelle famine, en France. Les gens peuvent avoir faim, ils vont dans des églises, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas de la farine, du pain à manger. Et je voudrais que nous comprenions bien que l'évangile, le mot évangile, ça veut dire quoi évangile? Bonne nouvelle. Et écoutez bien, frères et sœurs, écoutez-moi bien. C'est indiscutable. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ ne peut épuiser personne. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas possible. Il y a une call girl qui est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle me dit, Monsieur Gaud, j'ai écouté vos prédications sur le net. Moi, l'évangile, ça m'épuise. Alors je lui dis, ce n'est pas l'évangile qui vous épuise, c'est le péché, mais ce n'est pas l'évangile. Bon, je vais aller discuter avec votre femme. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, la grâce, la paix de Dieu ne peut épuiser personne. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Je ne sais pas si vous rendez compte. Quand Jésus parlait, il communiquait la vie. Bien sûr que certains étaient furieux parce qu'ils n'acceptaient pas ce pardon, etc. Ils voulaient camper dans leur religion. C'est pour ça que Jésus a donné ces paraboles. Mais il est notre Père. Quand il dit, je vous donne la paix, il veut vous donner la paix. Ces cantiques qu'on a chantés, vous les avez chantés, vous avez réalisé, parce que je sais que peut-être certains arrivent vite, là ils sont pleins cantiques. Je ne sais pas quand on arrive vite, si on peut être saisi par les paroles d'un cantique, j'en sais rien. Mais est-ce que vous avez vu ce que l'on a chanté? Il donne à son peuple courage, puissance, force et liberté. Vous l'avez chanté, notre frère Jérôme Fabio nous l'a relu parce que c'était nécessaire et je voulais le relire. Et je pense que la parole de Dieu donne la liberté. Il est le pain du ciel. Mes frères et sœurs, vous le croyez tout cela toujours? Il est le Seigneur. Lorsque Jésus vient sur la terre, qu'il a 30 ans et qu'il commence son ministère, il indique ce qui sera. Et quand il dit, mais je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle, je suis venu pour délivrer les captifs, pour libérer, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour consoler tous les affligés. Dieu n'a pas changé. Les cantiques le rappellent, les louanges l'exprimaient, la chorale n'a fait que le répéter. Mais c'est ce que Dieu veut. Dieu le veut. Il accomplit ces choses. Il accomplit. Jonathan Guyot, il est où Jonathan Guyot qui a présenté le chant, le premier chant? Vous avez dit, il peut guérir. Il peut pas. Il veut guérir. Je vous pardonne, Jonathan. Il veut guérir. Il peut guérir.
et il veut guérir.
Et mes frères et sœurs, vous savez, il y a deux choses. C'est pas compliqué. Ou nous vivons par la grâce, ou nous vivons dans la religion, dans la religiosité. C'est l'un ou l'autre. Quelqu'un qui vit dans la grâce de Dieu vivra dans le repos. Quelqu'un qui vit dans la religiosité sera toujours épuisé. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Ces paraboles, elles ont été données par Jésus-Christ pour des gens qui avaient soif et pour des pharisiens qui étaient tombés dans la religion à tel point que ce sont eux que le diable a utilisés pour crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Oui ou non ? Ce sont des religieux. Ce n'est pas des pécheurs qui ont poussé à la roue pour crucifier Jésus. Ce sont des religieux qui étaient dans un aveuglement total alors qu'ils étaient à la pointe de la religion. Croyez-moi, la religion du mérite, ça n'existe pas. Je vous donne juste ce petit rappel. Vous vous rappelez quand ce centenier, c'est-à-dire cet officier de l'armée romaine, est arrivé, a envoyé un de ses serviteurs vers Jésus. C'était un officier, c'était un homme qui dirigeait une centaine de personnes, c'était un capitaine, centenier, cent. Et donc il dirigeait 100 soldats, et il a pensé que compte tenu de ce qu'il était, c'était pas la peine qu'il aille lui-même vers Jésus. Il a envoyé quelqu'un, et il a fait dire, je suis pas digne que tu entres sous mon toit, tatati, tatata. Et les pharisiens sont arrivés, ils méritent. Alors attendez, les pasteurs sont arrivés en disant à Jésus, il mérite que tu lui accordes ça. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il avait donné de l'argent à la synagogue. Il avait donné de l'argent pour construire la synagogue. Alors, bien sûr, c'était très intéressant. Il mérite. Et lui a dit, non, je ne suis pas digne. Regardez bien, les religieux étaient complètement en dehors. Et cet homme qui n'était pas encore sauvé, était lui, dans un processus de vérité. Vous me suivez, mes frères et sœurs ? La religion était en train d'éloigner ces pharisiens de Dieu parce qu'ils étaient dans le mérite. La religion du mérite, elle vient du diable. Vous avez vu le frère aîné dans quel état il était ? C'est exactement ça que Jésus est en train d'enseigner aux pharisiens. Ils sont dans un processus, il faut mériter. Dieu m'aimera si je me consacre davantage. Dieu m'aimera si j'en fais davantage. Et mes frères et sœurs, ça a embourbé les églises dans le légalisme. Ça a embourbé le royaume de Dieu dans cet esprit pharisien. Et ce qui fait que les gens sont écœurés de la religion. Et ils ont raison. Ils ont raison. Vous avez vu la première parabole, c'est trois choses perdues. La brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. Et Jésus est en train, il les aime les pharisiens, il les aime. Et Jésus, ils devaient être furieux. Vous lisez, quand on ne connaît pas, ils devaient être furieux, les pharisiens. Vous avez vu comment Jésus commence ? La première parabole, si vous avez votre Bible. Vous amenez votre Bible à l'église ? Amenez votre Bible et prenez des notes. Je vous ennuie avec ça ? Est-ce que ça vous ennuie ? Amenez-la, votre Bible. Quelqu'un m'a dit, plusieurs fois m'a dit, mais pourquoi vous ne projetez pas les versets bibliques ? Eh bien, parce que les gens, il y a des églises, vous me l'avez dit vous-même, où personne n'amène sa Bible. Et je pense que c'est bien d'amener sa Bible. Vous êtes d'accord ? Moi, vous allez me dire, t'es un vieux jeu, c'est pas grave. Luc chapitre 15, verset 3. Regardez bien, il faut que vous appreniez vous-même. Est-ce que ce que je vous dis, ça tient debout ? C'est écrit dans la Bible, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. C'est écrit ? C'est écrit où, les jeunes pasteurs, là ? C'est écrit où ? Jude, si je me trompe. Luc 15, verset 3. Il leur dit cette parabole. Une parabole, je le répète, une parabole, ce n'est pas une antenne. La parabole, c'est une image terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celles qui étaient perdues. Elles sont où les brebis ? Elles sont où ? Elles sont où les brebis ? Dans le désert. C'est pas étonnant que des brebis aient envie de partir. quand le troupeau entier est dans le désert. Oui ou non? Et on a vite fait de critiquer ce qu'on appelle les rétrogrades. C'est facile de les critiquer. Ils ont quitté l'Église. Mais laissez-moi vous dire que même s'ils ont tort, parce que je pense qu'on a tout à gagner à rester dans le royaume de Dieu, parce que Jésus a dit « je bâtis mon Église », et je pense que franchement, on est aveuglé lorsqu'on quitte l'Église. Mais je comprends, et Jésus l'explique. Les pharisiens devaient être furieux, parce que croyez-moi, ils comprenaient. Mais quand on est dans le désert, on ne donne pas envie aux gens de nous rejoindre. Oui ou non ? Quand une église est desséchée, quand les chrétiens sont découragés, quand les chrétiens sont épuisés, moi je vous assure, je suis informé par rapport à ce qui se passe dans les autres mouvements, ce qui se passe dans le corps de Christ. Quand je vois la quantité de pasteurs, tout mouvement confondu, qui démissionnent, je comprends que les gens soient épuisés. Et ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile de la bonne nouvelle, je le répète, ça ne peut pas épuiser quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Seigneur, il nous aime. Vous le croyez qu'il vous aime ? Il vous aime inconditionnellement. Il aime tout le monde. La loi de Moïse disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Vous êtes d'accord ? Jésus, il ne nous a pas aimés comme lui. Il nous a aimés plus qu'il ne s'est aimé. Oui ou non ? Il faut bien le comprendre ça. Jésus ne nous a pas aimés comme il aurait dû s'aimer lorsqu'il était fils de l'homme. Il nous a prouvé qu'il nous a aimés au-delà de ce qu'un homme pouvait aimer. Et le résultat, vous le savez, c'est son sacrifice sur le bois de la croix. Dieu nous aime. Il aime tout le monde. Il nous aime inconditionnellement. Moi, j'ai vu des gens ici qui sont venus 2 mois, 3 mois, 6 mois, et je savais qu'ils ne tiendraient pas. Je le savais pourquoi. Parce que quand je leur disais « Dieu vous aime », « Oh, mais moi, je pense que Dieu ne peut pas m'aimer à moi. Vous savez, ma vie, tout ça, je suis misérable. » Je dis « Mais Dieu vous aime, il vous aime. » Non, à moi, c'est quoi ça? Mais c'est de l'orgueil. Pas conscient. En tous les cas, c'est une énorme bêtise. Dieu vous aime. Je pensais, quand j'ai préparé cette prédication, j'ai pensé à lui, tant pis, ça aurait pu tomber sur un autre. Vous avez connu Saddam Hussein, le mal qu'il a fait à son pays. Vous avez vu ce qu'il a fait, comment il a détruit certaines populations parce qu'elles n'étaient pas de sa religion à lui. Vous savez que bon, il y a un de ses officiers qui a filmé quand on l'a pendu. Vous vous rappelez cette histoire? Et franchement, plusieurs fois, ça m'est revenu quand je préparais cette prédication. Si Saddam Hussein, 30 secondes avant d'être pendu, il avait dit « Seigneur Dieu, je te demande pardon ». De tout mon cœur, je te demande pardon pour mes péchés. Purifie-moi. Est-ce que Dieu l'aurait sauvé? Vous en êtes sûr? Eh oui, c'est vrai. Dieu aime tout le monde. Il n'aime pas le péché, bien entendu, mais il aime tous les pécheurs. Il nous aime tels que nous sommes. Alors attention, que ça ne nous appelle pas dans une espèce de libéralisme et de laxisme qui ne ferait que nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que tout est réglé. C'est pas parce que Dieu nous a pardonné sur la croix, la première parole de Jésus sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur ». Dieu a pardonné. Jésus avait pardonné. Il avait pardonné, puisqu'il demande au Père de les pardonner. Vous me suivez? Il n'a pas dit « Je vous pardonne ». Il a demandé au Père de les pardonner. Ça veut dire que lui, déjà, il avait pardonné. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Le problème du pardon, c'est quelque chose de sérieux. De l'amour, c'est quelque chose d'important. On le chante, mais beaucoup de gens, je peux vous dire, qu'ils ne captent pas ce qu'ils chantent. Il ne réalise pas ce qu'il chante vraiment. Quand Jésus a pleuré sur Jérusalem, vous vous rappelez que Jésus a pleuré sur Jérusalem? Vous en rappelez? Il a pleuré. Bon. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus a pleuré sur lui parce qu'on allait le crucifier? Alors, c'est bien. Il ne pleura pas pour ça. Il ne pleura pas parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il a pleuré parce qu'il savait que les hommes rejetaient son amour. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens rejetaient son ministère. Ils rejetaient cette tendresse et ce pardon et ce salut. C'est pour ça qu'il a pleuré. Et là, nous avons une parabole qui indique vraiment, qui nous indique exactement dans quel état d'esprit nous sommes. Le fils, on devrait appeler cette parabole la parabole des fils prodigues. Ben vous allez me dire, ça y est, il a... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tous les deux sont rétrogrades. Tous les deux. n'y a pas besoin de partir d'une église pour être rétrograde. Ne vous imaginez pas, parce qu'on est fidèle dans une église tous les dimanches, qu'on est toujours en communion avec Dieu. Vous demanderez à Asaph dans le psaume 73, et vous verrez le grand responsable de la chorale de Jérusalem, choisi par David lui-même, si à un moment donné, il chantait, et en même temps, il n'était pas loin de Dieu. Vous lirez le psaume 73 et vous le vérifierez. Et dans cette parabole, n'oubliez pas, Jésus est en train de parler à plein de pécheurs qui ont besoin de cet amour et de cette tendresse et de voir ce que Dieu fait. Et en même temps, dans sa bonté, il parle à ces gens méchants, religieux, qui sont en train de le critiquer. Le Seigneur aime tout le monde. Quand il dit « Venez à moi », il dit « Vous tous, sauf les saints derniers, au fond, là-bas, qui sont pharisiens. Hein » Et c'est comme ça qu'il parle ? Non, il dit « Venez à moi, vous tous. » Je ne pense pas que dans ce grand groupe de gens, il n'y avait que des gens bien. Mais Dieu nous aime à tous. Et il sait, il doit nous parler. Mes frères et sœurs, enfin, moi je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez. Moi quand je lis ma Bible, je dis « Seigneur, parle-moi ». Quand je vais dans une église en tant qu'auditeur, c'est rare. Mais quand j'y vais, je dis « Seigneur, parle-moi ». Et franchement, c'est rare que Dieu me parle. J'en ai honte. J'en ai honte parce que je sais très bien qu'il y a un problème au niveau des pasteurs. Parce qu'on est accaparé par plein de trucs. Et ça, c'est le piège. Des choses spirituelles, enfin entre guillemets spirituelles. Alors, le Seigneur, il vous aime, mes frères et sœurs. Cette parabole, elle est là pour dire que Dieu nous aime, même si on s'est retrouvé. Parce que là, pour un juif, si vous avez lu le livre du Lévitique, votre livre préféré? Je sais que vous le lisez régulièrement, ce livre-là, non? Non? C'est le livre que vous avez tendance à sauter? Genèse, Exode, hop! On passe au nombre. J'ai zappé le livre du Lévitique. Mais quand vous lisez le livre du Lévitique, que les pharisiens connaissaient très bien, je peux vous dire qu'il y a les lois sur le comportement qu'on devait avoir envers les cochons. Vous avez lu le Lévitique? Et je peux vous dire que les pharisiens avaient un dégoût total. Et je comprends. Je le comprends plus, quelque part ça se comprend. Mais le Seigneur Jésus qui est venu apporter la grâce, je répète pour ceux qui le savent et qui ne le savent pas trop, que la grâce ça veut dire une faveur imméritée, que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Donc les pharisiens ont dû être ulcérés, furieux, quand ils ont entendu Jésus qui disait « Mais le Père l'a pris dans ses bras et couru vers lui » alors qu'ils auraient touché juste avec l'auriculaire un gars qui avait touché un cochon, il serait parti de suite prendre une douche. C'est vrai ça. Donc nous avons une parabole qui indique vraiment comment nous devenons ou des fils ou des esclaves. Si on reste enfant, vous l'avez lu avec moi dans les Galates, si on reste enfant ou enfantin, parce qu'avoir un cœur d'enfant, c'est bien, mais si on reste dans l'enfantillage, si nous ne développons pas notre communion avec Dieu de telle sorte que nous le connaîtrons davantage, nous resterons des enfants, et vous avez lu avec moi, l'enfant ne diffère en rien de l'esclave. Et beaucoup de chrétiens sont en vrac, dans une forme d'esclavage, épuisés, ils ne comprennent pas ces choses. Et ils ne développent pas cette communion avec Dieu qui fera d'eux de véritables fils qui pourront chanter ce qu'on a chanté tout à l'heure. Parce que quand même, les cantiques que vous avez chantés sont des cantiques de victoire. L'un des premiers cantiques qui est sorti dans le mouvement, c'était « Chant de victoire ». Vous l'avez vu? Vous l'avez chanté avec moi? Vous avez chanté les cantiques? Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. Quand on chante un truc pareil, si on est dans l'esclavage, c'est presque frustrant de chanter ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Il donne à son peuple la victoire, la liberté. Est-ce que le fils prodigue, l'aîné, des deux fils prodigues, est-ce que l'aîné pouvait chanter ce cantique? Pourtant, il le chantait dans la synagogue, peut-être tous les dimanches. Parce qu'on peut chanter des cantiques en espérant, c'est pas forcément de l'hypocrisie, en espérant qu'on va finir par y arriver, aller vivre. Mais mes frères et sœurs, cette parabole, elle est là. Il faut qu'à la fin de ce culte, dans un quart d'heure, 20 minutes de la prédication, pendant qu'on va prendre la Sainte Cène, il faut que nous puissions, vous et moi, nous poser sérieusement la question, est-ce que je suis un fils de Dieu, co-héritier, ou est-ce que je suis un esclave chrétien, tout le temps embourbé dans cette misère, dans cette colère, le fils aîné? Il n'en peut plus, il n'a même pas voulu rentrer dans la maison. Il entend qu'il y a de la musique, des danses. Et il demande, il n'est même pas rentré voir son père. Il demande à quelqu'un, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la... Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu sais pas, ton frère est revenu, ton père, tu verrais comment il l'a accueilli. Le seul qui pouvait faire la tête dans l'histoire, c'est le Vaugras. Le seul, c'est le seul. C'est le seul. Après tout, il n'avait pas qu'à être gras. Mais c'est le seul qui avait le droit à faire la tête, je le comprends. Mais lui, il aurait dû se réjouir. Et son frère revient, ah bon? C'est pas possible. Moi, ça fait des années que je me fatigue, que je m'épuise à réparer les clôtures. Tiens donc, quand, tiens donc. Je pensais à ça parce que je me souviens quand mon père avait acheté un champ. Et il m'avait demandé avec lui de faire la clôture. Il fallait dans les bois tailler des piquets, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas avec des piquets en béton. On faisait avec des poteaux en bois. Il fallait les couper, aller dans les bois de chez mes oncles, et les couper à tel centimètre, et puis les aiguiser, etc., enlever la corse. Parce qu'il ne fallait pas que les renards viennent manger les poules. Si vous saviez combien j'appréciais mon père. J'ai pensé à ça. Parce que mon père a gagné beaucoup d'argent. Et je lui dis, mais papa, dépense-le. Et vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Attention, c'est une projection, c'est une parabole aussi. Mais papa, pourquoi tu ne dépenses pas? Il me dit, mais tu l'auras. Et le père dit au fils, tout ce que j'ai est à toi. Et voyez, mes frères, ce qui fait de nous des esclaves, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'est l'amour de Dieu. Et servir Dieu. Servir Dieu, c'est une bénédiction. Quand il l'envoyait réparer la clôture, c'était pour qui? C'était va réparer les clôtures ou ça vouloir dire, écoute, réparer les clôtures, tu sais, on a tout à gagner à ce que les loups ne viennent pas manger les brebis. Vous me suivez? C'était pour le Père qui le faisait ou aussi pour le Fils? Et mes frères et sœurs, il faut que nous nous rendions compte de ces choses. Les pharisiens voulaient plaire à Dieu par leurs efforts. Parce qu'on pourrait se poser la question. Pourquoi, on va revenir en arrière. Pourquoi on aime quelqu'un? Est-ce qu'on aime quelqu'un parce qu'on a besoin de lui? J'aime Jérôme parce que c'est un très bon ancien. J'ai besoin de vous, Jérôme, donc je vous aime. Vous allez me suivre, hein? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous aime? Je vous aime, Jérôme. Dieu ne nous aime pas parce qu'il a besoin de nous, mais Dieu a besoin de nous parce qu'il nous aime. Est-ce que vous comprenez la différence? Dieu nous veut avec lui. Il nous a créés, même si la création se fait par procréation. C'est lui qui nous a créés, oui ou non? Qui c'est qui nous a tissés lorsque nous étions dans le ventre de notre mère? C'est Dieu. Et Dieu, il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous veut avec lui. Et les pharisiens, ils étaient à un stade où ils voulaient plaire à Dieu en faisant davantage de choses. Vous avez vu comment ils sont devenus? En plus, il y a un texte où c'est dans l'évangile de Marc, où Jésus leur dit, mais gardez-vous, écoutez bien, ce qui prouve que les disciples, les pasteurs de l'époque, les apôtres, étaient en danger. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Il leur a dit ça aux apôtres? Il ne leur a pas dit, vous avez vu, les pharisiens, c'est des hypocrites, et attention. Non, il leur dit, gardez-vous. Gardez-vous, ça veut dire qu'on peut nous aussi tomber dans le panneau. Vous me suivez? On peut essayer de plaire à Dieu par rapport à ce que l'on fait. Je dois en faire davantage. Ah, vous savez, Jérôme, si vous êtes un meilleur ancien, Dieu vous aimera davantage. Ah, vous voulez aller à la chorale, oh, c'est bien. Dieu vous aimera davantage. C'est vrai ça? Oui, mais on ne le dit pas comme ça. Mais quand même dans nos prédications, écoutez bien les prédications. On peut amener les gens à penser que s'ils en font un peu plus, s'ils en font encore un petit peu plus, Dieu va les aimer davantage. Et tout ça, c'est le levain des pharisiens. Jésus leur dit, je crois que j'ai marqué le verset. Je dois l'avoir marqué, ce verset. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Marc 8, 15, oui, je pense. Regardez, Marc au chapitre 8. Il faut le lire, ça. Vous savez, mes frères et sœurs, tout a été écrit, tout, pour notre instruction. Et ne nous imaginons pas que si Jésus a dit ça au pasteur qu'il était en train de former, nous n'en ayons pas, nous, besoin. Vous croyez qu'on en a autant besoin qu'eux ? Peut-être un peu plus, même. Marc chapitre 8, verset 15. Vous savez, ce sont des versets qu'on ne médite pas. Bon, là, je pense que ce sont des versets que nous, les pasteurs, nous devons expliquer. Mais regardez. Marc chapitre 8, verset 15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Il faut que nous fassions attention parce que nous deviendrons des esclaves et nous ferons les choses, il faut les faire. Pourquoi tant de pasteurs arrêtent d'exercer leur ministère ? Pourquoi ? Mais parce que on devient des pharisiens et on fait les choses en espérant que plus on en fera, plus Dieu sera content, plus Dieu nous approuvera, etc., etc. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Et quand le frère aîné explose, il n'en peut plus. Et je vois, moi j'ai vu dans l'église des gens qui ont explosé, qui se sont mis en colère par rapport à ci, par rapport à là, par rapport à ce qu'ils faisaient. Moi, on ne me dit jamais merci. Après, c'est bien d'être reconnaissant quand même, non ? Moi, je dis merci pour la chorale. Est-ce que c'est bien de dire merci pour la chorale ? Moi, je vous encourage à remercier les animateurs de l'école du dimanche, tous ceux qui travaillent, ceux qui enregistrent les CD. Est-ce que c'est bien ? Moi, je ne pourrais pas le faire, tout ça. Je vous ai raconté l'autre jour qu'il y a une dame, écoutez bien, c'est quand même une bénédiction. Il y a une dame qui m'appelle, une dame, je ne sais pas qui c'est. Elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Gros, je vous appelle parce que vous savez, j'ai écouté une prédication sur le net et j'ai été touché. J'ai dit, faut que tu donnes ça à ta mère. Elle a donné ça à sa mère qui était une fille prodigue. Et sa mère, quand elle a écouté la prédication, elle est revenue à Jésus-Christ. Attendez, ça c'est rien. Enfin, c'est rien, c'est déjà pas mal. 15 jours après, elle est morte. Et la fille, elle était bouleversée. Mais ça, c'est grâce à qui ? C'est au travail des frères qui enregistrent qui ? Oui ou non ? C'est le travail de M. Gros ou c'est le travail de toute une église ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est pour ça qu'il faut être reconnaissant et exprimer certaines choses. C'est pour ça que l'Assemblée Générale, c'est quelque chose d'important quand on fait le compte rendu de tout ce qui est financier. Pour moi, je le vois comme ça. Je le vois comme le fait qu'on ait des cohéritiers. Il en parle souvent, le Seigneur. Nous sommes cohéritiers. Et quand on fait les choses pour les faire, quand on fait les choses pour obtenir la faveur de Dieu, quand on fait les choses, oh, je veux faire ça, je serai plus béni. C'est pas vrai, ça. Vous croyez que Dieu bénit quelqu'un davantage parce qu'il va avoir une promotion dans l'Église ? Non. Regardez le danger. L'Épître aux Galates, regardez avec moi, regardez bien dans l'Épître aux Galates. Jusqu'où l'apôtre Paul nous met en garde ? Ça va archi loin cette affaire. Ce sont des versets qu'on ne médite pas. Mais moi justement, je veux vous aider à les méditer. L'Épître aux Galates, les chrétiens tombaient dans ce travers. Ils étaient en train de tomber dans ce travers. Et regardez ce que Paul dit. Non mais c'est grave, grave, grave. Galates chapitre 5, verset 1er. Jusqu'au verset 4. Mais regardez mes frères et sœurs, ça a été écrit à des gens qui retombaient dans le légalisme. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui veut se faire circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et regardez le verdict. Lisez-le, mais mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Paul, c'est la parole du Seigneur Dieu. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes... Vous avez comment ? Déchu de la grâce. Mais est-ce que vous avez déjà fait attention à ce verset ? Est-ce que vous aviez déjà fait attention ? Allez, répondez-moi. C'est pas des versets sur lesquels on s'arrête. C'est exactement ce qui se passe. Le fils aîné était déchu de la grâce. Est-ce qu'il était en communion avec son frère ? Est-ce qu'il était en communion avec son frère ? Ben, vous avez vu comment il parle de lui ? celui qui a dépensé tout son argent. C'est vrai que franchement, on peut en perdre du temps. Est-ce qu'on peut perdre du temps et des récompenses et de l'héritage? Est-ce qu'on peut en perdre? Ben oui. Si je ne fais pas ce que Dieu me demande, ça nuit à mon héritage. Vous allez me dire, oh mais moi je m'en fiche de mon héritage. Écoutez-moi mes frères et sœurs, soyons honnêtes devant Dieu. Je pense que nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ, mais que nous devons être héritiers de sa grâce. Est-ce que c'est écrit l'héritage avec les sanctifiés? Est-ce que, vous savez dans le ciel, mais je ne pense pas qu'on y réfléchisse, parce que pour nous c'est tellement loin, c'est tellement virtuel, mais la prophétie qui a été donnée tout à l'heure, moi vous savez j'ai failli prêcher sur le retour de Jésus-Christ. Et je pense que ça n'aurait pas été incompatible avec ce que je suis en train de vous dire. Mes frères et sœurs, Jésus va revenir bientôt, et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas que le salut, la robe de fin lin et tous ces habits super qu'on va avoir, il y a l'héritage. Et il n'y a que les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui servent dans un bon état d'esprit. Et même si vous vous êtes loupé, même si vous vous êtes éloigné de Dieu, Dieu vous aime. Vous savez, il y a un rétrograde qui est venu il y a quelques années. Il y a un rétrograde, un homme de mon âge à peu près. Ça m'a fait de la peine, ça m'a fatigué. Il y a un rétrograde qui est revenu, il était comme il était. Un peu en vrac, il avait une queue de cheval. Et il y a une chrétienne très spirituelle qui a été le trouver, qui lui a dit, vous savez, vous n'avez pas lu dans la Bible que Dieu demande aux hommes de ne pas avoir les cheveux longs. En plus, il n'était pas long, il y avait une petite couette de 10 cm. Je pense que même Jésus devait avoir les cheveux plus longs. Et cet homme, c'est lui qui me l'a dit. J'étais le visiter parce que je l'avais vu, je suis retourné. Il me dit, Monsieur Gauche, je ne reviendrai plus jamais dans l'église. Bon, je crois que Dieu... Est-ce que Dieu peut lui parler? Il n'est plus jamais revenu, en tous les cas, pour le moment. Voyez, quand on essaie de faire croire aux gens que c'est la longueur des cheveux qui va faire que vous allez avoir l'approbation de Dieu, c'est pitoyable. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu, il aime les gens, même s'ils reviennent et qu'ils sentent le cochon. Et vous savez, mes frères et sœurs, avoir une église qui plaît à Dieu, c'est important pour vous, non? Pour moi, non? Et les pharisiens, ils ont dû haïr Jésus. D'ailleurs, à un moment, ils ont dit, mais celui-là, on ne le connaît pas. Vous savez, quand l'aveugle né disait, mais il m'a ouvert les yeux. Si ce n'était pas un homme de Dieu, il ne m'aurait pas ouvert les yeux. Nous, on te connaît. Et qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Mais celui-là, on ne le connaît pas, celui-là. Alors que je peux vous dire que s'ils avaient lu la loi, ils auraient su. Ils auraient su. D'ailleurs, quand il a pleuré, Jésus, je n'ai pas tout dit tout à l'heure, mais Jésus a dit, mais si tu connaissais au moins en ce jour, vous vous rappelez quand Jésus dit, si tu connaissais au moins en ce jour qui t'est donné, et s'ils avaient calculé, ils auraient compris que c'était le Messie. Le jour où Jésus rentrait à Jérusalem sur un âne, ils auraient pu le calculer, ils connaissaient la parole. Moi qui suis qu'un simple serviteur, je l'ai compris ça. Et les gens, ils ont le droit de venir comme ils sont. Est-ce qu'un fils prodigue, ce matin il y a peut-être un fils prodigue, vous revenez peut-être, vous n'allez pas bien, vous avez péché, vous vous êtes disputé, je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais écoutez, le Seigneur il vous accueille. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester comme ça, attention. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut, ah c'est super, Monsieur Go, il a fait des progrès Monsieur Go. Écoutez-moi bien, il faut s'habiller comme il faut. Je ne parle pas des habits que l'on porte. Spirituellement, il faut retrouver une robe blanche. Il faut retrouver l'anneau qui nous parle de cette alliance. Et on en a un, nous, les hommes mariés. Vous avez un anneau, les hommes mariés? Vous l'avez, Jenson? Vous l'avez? Ouais, ça va. On n'a pas une alliance? Madame Go, vous l'avez, votre alliance? Bon. Est-ce que vous avez une alliance avec le Seigneur? Elle est invisible, mais est-ce que vous l'avez faite, cette alliance? Mes frères et sœurs, c'est sérieux, il y a plein de chrétiens, moi je vous assure, l'autre jour, je vous le dis parce que ça fait partie de ma vie. Il y a un pasteur qui est venu me voir, il savait que je ne le jugerais pas. Et il m'a dit, Monsieur Go, j'en peux plus. On aurait dit, je vous dis un petit garçon, j'en peux plus, aidez-moi. Et je sais que c'est quelque chose que Dieu veut que je fasse, peut-être qu'il aura besoin d'écouter cette prédication. Comme je l'ai dit, la bonne nouvelle ne peut pas pas épuiser quelqu'un. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, c'est pas possible. Lire la Bible, recevoir une parole de Jésus-Christ, recevoir la paix, recevoir la consolation de Dieu, ça peut pas vous épuiser. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que vous êtes dans un mauvais état d'esprit. C'est que, ou alors vous essayez de gagner la faveur de Dieu. Seigneur, tu vois, je vais me consacrer à toi. Moi, on me l'a dit. Si tu te consacres davantage, tu verras, Dieu te bénira. Et je me suis consacré, Et moi aussi, je suis tombé dans le panneau. Et moi aussi, je me suis épuisé. Et moi aussi, j'ai failli arrêter le ministère. Parce qu'on m'avait, on me l'a dit, directement ou indirectement, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est venez à moi et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Les pharisiens, ils en étaient arrivés à ce calcul. Et celui qui n'était pas comme lui, je peux vous dire qu'il était vite ravagé et renvoyé. Celui qui, d'ailleurs, vous connaissez un peu plus loin la parabole de, que Jésus adresse aux pharisiens, et qu'il y en a un qui est dans le temple qui prie, « Je te prie, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je prie, je jeûne deux fois par semaine, tenez-vous bien. Je donne la dîme de tous mes revenus, même la menthe et la ciboulette. Seigneur, tu vois tout ce que je fais, et je ne suis pas comme le reste des hommes, et je ne suis pas comme ce publicain-là. » Il l'a pas dit. C'est ça la religion. C'est ça. Je cherche à plaire à Dieu. Je jeûne. Je prie. Je donne ma dîme. Seigneur, ça doit te plaire. Non. Bien sûr qu'il faut le faire. Jésus dit, il faut le faire. Mais mes frères et sœurs, je dois être un héritier. Je le fais de tout mon cœur. S'il me faut réparer les clôtures, c'est pour moi. C'est pour le bien. Si je fais quelque chose dans l'église, le bénéficiaire, ça sera vous. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur, il n'a pas que les clôtures soient réparées ou pas. C'est quand vous faites quelque chose, n'oubliez pas, d'ailleurs, il a dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Tout. Et mes frères et sœurs, moi je suis peiné quand je vois l'état des églises. Et je suis surtout peiné, écoutez-moi bien, quand je vois que les trois quarts, j'espère que je suis en dessus, les trois quarts ne réalisent pas ces choses. Et ils ont affaire à des serviteurs de Dieu qui les enferment dans cette loi pharisaïque, alors que nous devrions vivre par la grâce de Dieu. Et ce que je le fais de tout mon cœur. Parce que Dieu est mon Père. Le fils aîné n'avait aucune communion avec son Père, il ne le connaissait pas. D'ailleurs, il dit, ton fils. Vous voyez, il est dans une rage. Pourtant, on aurait pu dire, le fils aîné, lui, il est bien quand il est resté et tout. C'est vraiment, c'est un petit peu bien. Vous êtes dans l'église? Nous sommes dans l'église, parce que moi, je suis avec vous. Qu'est-ce qu'on est dans l'église? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que tu es, mon frère? Est-ce que tu es un esclave de cet esprit des pharisiens? Ou est-ce que tu es un fils? Dieu est mon Père, ce que je fais, je le fais de tout mon cœur. Je sais ce que c'est, moi, de préparer des prédications à contre-cœur. À Tahiti, je n'en ai pas préparé beaucoup avec cœur. Je le faisais comme un cuisinier qu'il faut qu'il fasse à manger. Je le faisais, c'était propre. Et c'était, j'espère que c'était bon. Mais aujourd'hui, quand je fais une prédication, je ne sais pas comment vous dire. Je sais si ça plaît à Dieu ou pas. Vous avez envie de plaire au Seigneur? D'être un enfant? Je veux être un enfant, un héritier, un co-héritier. Et ce que je vais faire, c'est pas une... Ah, il faut aller à la réunion de prière. Ah, il faut prier. Ah, il faut prier. C'est quand la réunion de prière? Ah non, je peux pas. Faites... Mais moi, je vous dis pas de prier davantage ou de vous consacrer davantage. Je vous dis, faites ce que Dieu vous demande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il va suivre. Moi, je l'ai fait ça, j'en ai honte. J'ai eu dit plus ou moins ça déjà, mais fais ça, tu verras. C'est vrai que quand on met Dieu en premier, le reste suit. C'est imparable. Et beaucoup parmi nous sont en vrac parce qu'ils ne mettent pas Dieu en premier. Ils vont à l'église tous les dimanches, ils peuvent lire même la Bible tous les matins. C'est pas parce qu'on lit la Bible tous les matins que Dieu est en premier. Ça, c'est l'esprit des pharisiens. Dieu est en premier quand il est en premier tout le temps. Mais mes frères et sœurs, que sommes-nous, des fils ou des esclaves? Si vous êtes un esclave, vous serez épuisé. Si vous êtes un fils, vous serez libre. On se recueille, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants? Jeudi, quand je suis arrivé à la Réunion, j'étais en avance et je discutais avec un frère dans l'église qui avait été bouleversé par un verset de la parole. C'est le verset d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, où Dieu dit, écoutez bien, restez recueillis, restez recueillis. Vous savez que la Bible dit qu'il nous a sauvés par son sang, par grâce, que c'est par la foi dans la grâce, et qu'il nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées à l'avance. Vous connaissez ce verset? Quelqu'un pourrait me dire, non, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Il nous a sauvés par son sang, mais il est dit qu'avant qu'on fasse des œuvres, il est dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Et avant de faire des œuvres, je dois être un vase, son ouvrage. Voilà, mes frères et sœurs, pourquoi tant d'églises sont dans l'esclavage, où tant de chrétiens sont épuisés, parce qu'ils font des œuvres que Dieu ne leur a jamais demandées. Et je suis sûr, mais je suis sûr que je vais vous dire, ça va vous choquer, c'est peut-être pour un pasteur que je le dis, il y a des gens qui vont se retrouver au ciel et qui vont dire à Jésus, tu sais, j'étais pasteur toute ma vie, et Dieu va le dire, mais je ne t'ai jamais demandé. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que des gens qui auraient dû l'être, et qui n'ont pas obéi. Tout simplement parce qu'on est passé du salut à l'œuvre, plutôt que de passer du salut à l'ouvrage. Et mon frère, ma sœur, écoute bien, on va prendre le pain et le vin, il faut que ça soit un esprit de victoire. Si tu es son ouvrage, écoute bien, mon frère, c'est sérieux. Si tu es son ouvrage, s'il peut poser ses mains sur ta vie, sur ton vase, comme le potier pose les mains sur le vase qui est sur le tour. Par contre, il faut être sur le tour de la parole. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne restez pas suffisamment de temps, il est impossible que Dieu fasse de nous un vase. Ça, c'est clair. Mais si nous sommes un vase, son ouvrage, moi, je vous dis, de la part du Seigneur, que son joug sera doux et son fardeau sera léger. Vous ferez ce que le Seigneur vous demande. Moi, il m'a fallu du temps pour en arriver là. Vous voyez, c'est pour ça que je voudrais surtout pas que quelqu'un se méprenne. Moi, je veux vous encourager. Mais si vous êtes son ouvrage, vous pourrez chanter, oui, mon joug est doux, ton joug est doux et ton fardeau léger. Notre Père qui est aux cieux, en plus, avec tout ce qu'on a fait, quand on ne te connaissait pas, et après même, tu nous autorises à t'appeler Père éternel. Nous voulons être ses fils, ses co-héritiers, des richesses incompréhensibles, de ses œuvres bénies. Oui, nous languissons ce jour, où revêtus de fin lin blanc éclatant pur, nous obtiendrons cet héritage. Merci Seigneur. Merci de nous rappeler ton œuvre au calvaire par la Sainte Seine. Nous voulons le faire avec une immense reconnaissance, un immense respect, de nous rappeler que tu nous as aimés plus que tu t'es aimé toi-même. Merci pour la croix, Seigneur, oui, merci. Que ton nom soit béni.